La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux témoins et acteurs de l'histoire. 22 ans après le génocide des Tutsis du Rwanda, nous revenons sur l'affaire Akayesu, premier procès du TPIR, à travers ses archives sonores.
Your Honors, this tribunal was established by
Honorable juge, ce tribunal a été créé par le Conseil de sécurité comme l'expression collective de la communauté internationale exprimant sa soif de justice. Le tribunal est donc chargé d'une tâche gigantesque et aidera à construire une société plus humaine où régnera le droit par-dessus la force. Le procès que vous allez mener et les décisions et jugements que vous allez prononcer et les sentences que vous allez imposer devront également contribuer au processus de réconciliation nationale pour mettre un terme définitif au cycle de violence ethnique et pour favoriser et encourager la paix entre les gens du Rwanda.
L'ouverture du premier procès du tribunal pénal international pour le Rwanda, dont vous pouvez consulter les archives sonores sur le site internet de l'ONU. C'est l'affaire Akayesu, du nom de l'accusé Jean-Paul Akayesu. Il est le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de la commune de Taba, située dans la préfecture de Gitarama, une des préfectures les plus meurtrières pendant les 3 mois du génocide. Je vous rappelle qu'entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été massacrés. Arrêté en Zambie le 10 octobre 1995, Jean-Paul Akayesu est transféré à Arusha en Tanzanie le 26 mai 1996. Son procès commence le 9 janvier 1997, plus de 2 ans après la mise en place du TPIR. Et pour revivre avec nous le premier procès du tribunal pénal pour le Rwanda, j'ai convié l'historienne Ornella Reveta. Bonjour Ornella.
Bonjour Valérie.
Ornella, vous avez consacré votre thèse aux archives du TPIR et plus particulièrement à ce premier procès. Que représentent ces sources pour une historienne ?
Alors les sources du TPIR sont des sources très particulières, très diverses. On a énormément de sources écrites, des transcriptions d'audiences dans lesquelles la voix des acteurs, la voix des témoins nous parvient. On a aussi une masse documentaire qui a été collectée dans le cadre de ces différents procès, assez considérable et qui va nous amener un matériau dans lequel on peut puiser des informations extrêmement riches.
Et c'est très intéressant parce qu'en l'occurrence, pour documenter le génocide de Rwanda, c'est difficile, il y a peu de sources écrites.
Alors on dit qu'il y a peu de sources écrites, effectivement, c'est à nuancer parce qu'il y a des procès dans lesquels on voit qu'il y a bien des documents, des correspondances, des circulaires qui peuvent être utilisés et qui ont circulé et qui ont été conservés. Mais c'est vrai que, et notamment c'est le cas dans le cadre de ce premier procès, il va reposer sur le témoignage et donc sur la parole des témoins.
Et c'est vrai qu'à l'époque, autant dire que l'attente est immense lorsque s'ouvre enfin le premier procès du TPIR. Nous sommes le 9 janvier 1990. Et l'audience d'ouverture est présidée par le juge sénégalais Laïti Kama.
L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, voulez-vous nous indiquer l'affaire inscrite au rôle du tribunal ce matin?
Excellence le président, l'affaire inscrite se joue au rôle du tribunal pénal international pour le Rwanda. Porte la référence ICTR 96-4-T, le procureur contre Jean-Paul Akayesu. Elle est portée devant la chambre de première instance numéro 1 du tribunal, composée du juge Laïti Kama président, du juge Lennart Aspergren et Navenitham Pillé.
Je demanderai à l'accusé de venir à la barre. Vous l'aviez déjà fait, mais je vous demanderai de le faire de nouveau, de vous présenter au tribunal vos noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Paul Akayesu. Je suis originaire de la commune d'Otara, né au secteur administratif de Murehe en 1953. Je fus longtemps enseignant. Après quoi, je fus inspecteur des écoles primaires dans notre commune pour en fait être bourgmestre de la commune d'Ottawa. Je vous remercie.
Je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place.
Calme et posé, Jean-Paul Akayesu a choisi de s'exprimer en français. Il avait environ 40 ans au moment des faits. Alors c'est un homme éduqué, on l'entend. Quel est son profil, Ornella Rovetta?
Jean-Paul Akayesu est au départ un enseignant. Donc il enseigne dans sa commune, ensuite il va devenir inspecteur de l'enseignement, donc il va gravir un peu les échelons d'une certaine façon. Et puis dans le contexte du début des années 90, du multipartisme, de l'ouverture, donc du renouveau d'un certain nombre de partis, il va s'engager en politique dans le MDR, donc le Mouvement Démocratique Républicain. Et il va petit à petit aussi prendre une position plus importante dans la commune, il va devenir président du MDR, parti d'opposition, avant d'être nommé ensuite bourgmestre en 1993.
Ornella Rovetta, au début du génocide en avril 1994, le Rwanda compte 145 bourgmestres, hein, ce sont les maires. Est-ce qu'ils ont beaucoup de pouvoir sur les administrés ?
Alors, le bourgmestre est une figure importante au niveau local, c'est une figure qui est active dans plusieurs domaines, qui est bien connue aussi, donc c'est une figure publique, bien sûr, que la plupart des habitants connaissent très bien, parce qu'il passe à la commune. Et dans le cas de Jean-Paul Akayesu, il était enseignant, donc il a vraiment une notoriété locale.
Jean-Paul Akayesu est le premier des 12 maires jugés entre 1997 et 2012 par le Tribunal international pour le Rwanda. Il a été condamné à perpétuité.
Excellences, le 19 avril 1994 et dans la période qui a suivi, dans la commune de Taba, plus de 2000 Tutsis, des hommes, des femmes et des enfants, ont été battus, massacrés à la hachette et tués à l'issue des ordres qui avaient été donnés par M. Jean-Paul Akayesu. Monsieur Jean-Paul Akayesu, qui est assis ici devant nous, a été accusé de génocide, de crime contre l'humanité et de violation de l'article 3 commun aux conventions de Genève. Les preuves que présentera le parquet prouveront, au-delà de nul doute, que Jean-Paul Akayesu a ordonné et qu'il a tué également et qu'il a incité des gens à tuer et qu'il était complice du meurtre d'un membre de la population Tutsi dans l'intention de détruire en tout ou en partie la population Tutsi du Rwanda. En outre, des témoins à charge et les preuves montreront que l'accusé n'a pas, en qualité de bourgmestre, rempli ses fonctions, à savoir empêcher la commission de génocide par les fonctionnaires qui relevaient de lui. Il n'a pas non plus rempli sa mission, à savoir empêcher le génocide de ses subordonnés et par des gens qui étaient sous son contrôle ou soumis à son influence. Il a également failli à sa tâche, à savoir traduire en justice les gens qui étaient sous ses ordres et qui ont commis des meurtres, incité ou encouragé des actes de génocide et des crimes contre l'humanité.
L'énoncé des faits par l'avocat général Jacob Aïlé Mariam lors du procès de Jean-Paul Akayesu, premier procès du TPIR. On a envie de vous demander, Ornella Rovetta, quel a été le rôle des maires en général dans le génocide des Tutsis au Rwanda?
Alors, le rôle des maires en général, et on le voit d'ailleurs à travers d'autres procès de bourgmestres, parce qu'il y a eu les procès au TPIR, mais aussi dans d'autres pays, et bien sûr au Rwanda, c'est un rôle bien sûr divers selon les situations locales qui peuvent être très, très différentes, mais c'est un rôle d'activation, d'organisation, d'incitation à différents niveaux.
Donc cela veut bien dire que toutes les autorités, des plus hautes jusqu'au plus local, sont impliquées dans la mise en œuvre du génocide.
Et c'est ça qui est intéressant dans ce premier procès, c'est que d'emblée, il nous plonge finalement au cœur même de la dimension locale du déploiement du génocide.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Ornella Rovetta, dans ce premier procès en présence de l'accusé, nous allons maintenant entendre les témoins, parmi lesquels on compte des experts.
Monsieur le Président, je suis le major général Roméo Dallaire, 51 ans, officier des Forces armées canadiennes et ancien commandant des forces de la MINUA.
Pour la première fois depuis le génocide de 1994, Roméo Dallaire témoigne en public devant le TPIR.
Je travaillais encore avec le contexte que j'avais encore une mission de maintien de la paix dans le contexte de l'accord de paix d'Arusha et de mon mandat. Et dans ce volet-là, ce que j'avais, c'était un débordement nécessairement d'envergure. J'avais une crise politique d'envergure. J'avais verbalement les désirs des deux côtés de continuer avec tenter de prendre la situation à main. Donc, jusqu'à ce moment-là, on pouvait dire qu'il y avait une chance de remettre la situation en main. Mais lorsque le Front patriotique nous l'a dit, nous perçons, nous sortons de du CND pour se défendre, à ce moment-là, je ne suis plus dans une mission de maintien de la paix, car les deux, maintenant belligérants, ont décidé de refaire le combat. Alors, dans ce contexte-là, si les deux belligérants ne veulent plus se contrôler et que ce n'est pas simplement une altercation de parcours sur la zone démilitarisée, comme on avait eu au mois de mars, ben, à ce moment-là, mes troupes ne sont plus mandatées pour restreindre le Front patriotique.
En général, pouvez-vous nous dire à quel moment ont commencé les massacres des civils?
Selon les rapports et ce que j'ai pu voir, il y avait des barricades déjà de montée autour de 10h, 11h le soir du 6. Il y avait des éléments de la garde présidentielle parce que je devais passer près de leur camp. Et même quand je suis revenu avec Colonel Bagassora pour me rendre à la maison du représentant spécial, fallait passer par là et on les avait vus ensemble, mais ils ne faisaient qu'arrêter les gens. Il n'y avait personne à ce moment-là de blessé ou rien. Les autres tout arrêtés. C'était un genre de contrôle, c'est ça certainement qui nous avait été expliqué puis qu'on voyait. C'est au cours de la nuit et dans la matinée, c'est-à-dire de bonne heure, 4 heures, 5 heures, 6 heures, que de plus en plus, les rapports rentraient dans Kigali, que de gens se faisaient enlever, que les gardes que j'avais mis dans quelques endroits avaient été soit faits prisonniers, enlevés, bousculés, battus, désarmés, et que les gens qu'ils protégeaient avaient été enlevés et tués. Je recevais des rapports où il y a dans certains quartiers qui avaient des groupes de gens en uniforme, phares. Je me rappelle pas à ce moment-là, gendarmes, mais phares certains, gardes présidentiels rapportés souvent, qui allaient dans des maisons spécifiques pour tuer. Alors, il y allait dans telle maison, puis après ça, il faisait 3-4 autres maisons, puis l'autre, tout à coup, il rentrait dans une autre maison, puis sortait du monde où il les tuait, puis... Alors, c'était à ce moment-là.
L'émotion de l'ancien commandant de la MINUAR, Roméo Dallaire, lors de son témoignage devant le TPIR le 25 février 1998, dans le cadre de l'affaire Jean-Paul Akayesu. Il évoque le tout début du génocide des Tutsis, le 7 avril 1994. Mais alors, pour quelles raisons on fait venir Roméo Dallaire? Pourquoi est-il convoqué en Ella Rovetta?
Alors, Roméo Dallaire, c'est un cas un peu particulier parce qu'il est convoqué à l'origine par la défense. Donc, il apparaît dans la deuxième partie du procès. Mais finalement, ça va être un témoin tellement emblématique qui va d'ailleurs drainer une certaine foule, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de spectateurs aussi ce jour-là au tribunal. Roméo Dallaire va être un témoin de contexte qui va aussi amener la dimension communauté internationale dans ce procès qui, on l'a vu déjà dans les extraits entendus, est très local.
Et donc, communauté internationale qui est présente, là, pour le coup, pour le procès.
Alors, elle est présente donc à travers la voix de Roméo Dallaire, et cette présence nous montre aussi, et à travers tout son témoignage d'ailleurs, justement cette absence de la communauté internationale au moment du génocide, puisque les périodes qu'il va décrire dans son témoignage sont aussi celles où la communauté internationale décide de retirer en quasi-totalité sa mission de maintien de la paix à Minuar.
Dans le procès à Yakézou, différents habitants de Taba, la commune administrée par Jean-Paul à Kayissou, sont également convoqués pour raconter ce qu'ils ont vu et entendu.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Akayezu a demandé aux itinérants d'aller de l'autre côté de la route et il a commencé la réunion. Il a dit ceci: oubliez les histoires de partis politiques, vous allez y revenir quand vous aurez éliminé l'ennemi. L'ennemi unique qui est en face de vous, c'est le Tutsi.
Combien y avait-il d'itinérants?
À peu près 15.
Quand Akayezu a demandé à ses interrompus de se mettre d'un côté, est-ce qu'ils ont obéi à cet ordre?
Oui, ils ont respecté l'ordre.
Est-ce qu'il a dit qui étaient ses ennemis?
Pendant cette réunion, il a dit que l'ennemi c'était le Tutsi.
Au cours de cette réunion, est-ce que Jean-Paul Akayezu a mentionné des noms de personnes?
Il a mentionné un seul nom. Il a parlé d'autres personnes dont il n'a pas cité les noms. Il a dit qu'il se trouvait entre la commune Taba et celle de Kayenzi. Le nom de la personne qu'il a cité, c'est la personne du nom de Karangwa Ephraim. Il a dit que ce Karangwa Ephraim devait le tuer et le remplacer comme bourgmestre. Il a dit ceci: je ne veux pas vous dire les noms de ces autres personnes parce qu'ils ne sont pas loin d'ici. Certains d'entre vous peuvent aller leur dire cela et je risquerai de ne pas les trouver chez eux.
Le récit de la réunion du 19 avril 1994 par un des habitants de la commune de Taba. Nous sommes une dizaine de jours après le déclenchement du génocide à Kigali. Ornella Revetta, quel est le message de Jean-Paul Akayesu à ses administrés?
Alors le message qu'il va délivrer lors de cette réunion qui se tient vraiment au petit matin du 19 avril est un message qui bascule complètement à l'inverse de ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire une certaine retenue, un certain calme qui avait été maintenu dans la commune et qui va d'ailleurs susciter une certaine stupéfaction d'un certain nombre de personnes qui assistent à cette réunion et qui est celle du retournement contre la population Tutsi.
Vous voulez dire, Ornella Revetta, qu'à ce moment-là, le bourgmestre met en œuvre localement ces ordres génocidaires?
Oui, alors le bourgmestre, qui d'ailleurs, la veille, a assisté à une réunion à laquelle participe un certain nombre de ministres du gouvernement intérimaire, qui s'est déplacé dans la province de Gitarama, va effectivement faire basculer sa commune. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent ce basculement. Il y a le contexte régional, il y a ce qui se passe dans les communes limitrophes, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Mais il y a cette prise de parole publique très importante et qui va d'ailleurs aussi fonder sa condamnation pour l'incitation à commettre le génocide.
Votre honneur, nous avons été impressionnés par le manque total de rancœur et d'esprit de vengeance des victimes et des témoins à l'encontre de M. Akayezu. Mais ils sont également assoiffés et déterminés à obtenir justice. Ils ont pris la décision courageuse de dire la vérité en prenant des risques extrêmes pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, s'ils en ont encore. Votre honneur, la majorité, presque 90% des témoins de l'accusation parlent Kinyarwanda et c'est la langue dans laquelle ils ont été interrogés par le bureau du procureur.
Nous revivons l'affaire Akayesu, le premier procès du TPIR au son de ses archives sonores. La parole est aux témoins et c'est à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde au son des archives du tribunal pénal international pour le Rwanda, nous revivons le premier procès du TPIR, celui du bourgmestre de la commune de Taba, Jean-Paul Akayesu. À travers les extraits du procès, nous pouvons entendre les témoignages des habitants de la commune de Taba. Ils ont survécu au génocide.
So what you said, you went from Kayenzi to Murambi in Taba.
Vous dites que vous êtes parti de Kayenzi à Murambi dans la commune de Taba. À Murambi, où est-ce que vous vous êtes caché?
Ni Murambi ni ne.
Oui, c'est à Murambi que nous nous sommes cachés.
Where in Murambi specifically?
Où exactement à Murambi? À quel endroit de Murambi?
Icyo nakubwira nuko I Murambi hari ahantu hari amasaka yakuze vuba kandi menshi muri icyo gihe.
Je peux vous dire que à Murambi il y avait un champ de sorgho, le sorgho qui avait beaucoup grandi à ce moment-là.
Ku buryo kwigishamo byari byoroshye.
C'était facile de se cacher dans ce champ de sorgho.
Kandi hari famille yari gifite umutima.
Il y avait aussi une famille qui avait encore la bonne volonté. Cette famille nous aidait pour ce qui est de manger dans la soirée. Et nous pouvions aussi passer la nuit chez eux. Et quand il n'y avait pas tellement de problèmes, nous pouvions aussi passer la journée dans leur maison.
Est-ce que Akayesu est venu dans votre cachette à un moment donné?
Oui, il est venu.
So when they came,
quand ils sont arrivés à l'endroit où vous vous cachez, est-ce que Akayesu et les Interahamwe ont trouvé quelqu'un, ont trouvé des gens?
Oui, ils ont trouvé des gens à cet endroit.
Were these people children?
Est-ce que c'était des enfants ou des adultes?
On a découvert là-bas trois filles. Et un jeune enfant de sexe masculin qui avait à peu près 12 entre 12 et 14 ans.
So how did, what did Akayesu and the Interahamwe?
Qu'est-ce que Akayesu et les Interahamwe ont fait à ces enfants?
Il y a l'une des filles qui a tenté de fuir pour aller se cacher dans le champ de
sorgho.
L'Interahamwe nommé François a dégoupillé une grenade et l'a lancée à cette fille dans le champ de
sorgho.
Ce jeune garçon dont je vous ai parlé a tenté de quitter sa cachette. Il est tombé tout près de l'endroit où se tenait Akayesu. Akayesu lui a asséné le coup de massue qu'il avait sur lui. La population qui était avec Akayesu et les Interahamwe dont je vous ai parlé ont immédiatement arrêté ce jeune enfant avec les filles. Ils ont commencé à taper sur le jeune enfant.
So you saw these incidents with your own eyes.
Vous avez été témoin oculaire de ces incidents.
Ce que je dis là, c'est ce que je vis de mes propres yeux.
Vous l'avez entendu depuis le début de cette émission, plusieurs témoins ont vu et entendu Jean-Paul Akayesu désigner les Tutsis comme les ennemis à exterminer, qu'ils soient des hommes, des femmes ou des enfants. L'un des témoins a même précisé que Jean-Paul Akayesu avait désigné nommément Ephrem Karangwa comme Tutsi. Écoutez Ephrem Karangwa à son tour, il vient témoigner au TPIR, il raconte comment un ami à lui l'a prévenu et lui a sauvé la vie.
Il m'a dit qu'il venait m'aviser que je devais fuir parce qu'on s'apprêtait à me tuer. Il m'a dit ceci. Ce qui est en train de se passer à Runda va bientôt se produire dans la commune de Taba. Et tu fais partie des personnes qui doivent être tuées. La réunion vient d'avoir lieu dans la commune. Et c'est le bourgmestre qui dirigeait cette réunion. Ne me pose pas beaucoup de questions. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de fuir toi et ta famille.
So what did you do at this time?
J'ai essayé d'informer ma femme, mes enfants, ma mère, pour que nous tentions de fuir. Et nous avons essayé de fuir.
Nous sommes le 6 février 1997 et à la barre du TPIR vient d'être appelé Ephrem Karangwa, seul témoin de la commune de Taba, témoigné à visage découvert dans le procès du bourgmestre Jean-Paul Akayesu. Ce qui nous rappelle que nous sommes en 1997, Ornella Rovetta, nous sommes seulement 3 ans après le génocide.
3 ans après le génocide, et donc la plupart des témoins effectivement se présentent anonymement devant le tribunal. Alors ils témoignent presque tous en Kinyarwanda, on l'a entendu dans l'extrait ici aussi, même si certains parlent ou comprennent le français, ils ont choisi de témoigner en Kinyarwanda. Lorsque Ephrem Karangwa se présente devant les juges, on est vraiment dans la phase très intense du procès dans laquelle les différents récits des témoins viennent raconter ce qui s'est passé. Récits des témoins de Taba qui forment en fait la majorité des témoins du procès, puisqu'on a 32 personnes de Taba ou du Rwanda qui viennent témoigner.
Et à travers ces témoignages, est-ce qu'on peut finalement approcher le cheminement de la violence et du rôle spécifique du maire, du bourgmestre de Taba, Jean-Paul Akayesu?
Je pense que c'est une des formes aussi de ce procès, c'est que les témoignages qu'on peut entendre et qu'on peut lire vont non seulement faire part d'un vécu, d'une expérience, mais vont aussi documenter très précisément les actes pour lesquels Akayesu est jugé devant le TPIR. Et si on met bout à bout finalement ces différents témoignages qui s'échelonnent sur une période relativement longue, 60 journées d'audience mais réparties sur 1 an et demi, eh bien on obtient effectivement une certaine image, alors bien sûr avec des blancs, avec des silences, mais une image de ce cheminement et de ce moment de basculement dans la commune.
Des moments de basculement dans la commune qui vous permettent, Ornella Rovetta, vous avez fait votre thèse sur ce procès. Cela vous permet de nous expliquer au fond les temps principaux du génocide et de sa mise en œuvre à Taba. Vous écrivez que ça se passe sur 4 jours, du 18 au 21 avril 1994.
4 jours, effectivement, en tout cas, ça c'est le cadre chronologique très resserré qui a été choisi par le procureur pour mener son procès. Alors bien sûr, le génocide s'échelonne sur une période plus longue, mais il a été, comme ailleurs, au Rwanda, très fulgurant dès que la dynamique s'était mise en place.
Donc il y a cette réunion du 19 avril.
Alors, il y a 3 temps qu'on peut distinguer à partir de ce récit qui se construit dans le procès. Le premier, c'est celui de cette réunion, qui est documentée par plusieurs témoignages qui viennent se croiser et appuyer ce qui s'y est dit.
En l'occurrence, c'est là où le maire donne le coup d'envoi, en quelque sorte.
Il donne le coup d'envoi, et puis ensuite, il va... Alors, on a vu qu'il a cité une personne nommément, il y en a d'autres, et ces personnes, qui sont notamment des enseignants, donc aussi des anciens collègues, sont parmi les premiers qui vont être ciblés. Donc, ce qui suit cette réunion, c'est une sorte de traque ciblée d'un certain nombre de personnalités dans la commune. Et puis ensuite, dans un troisième temps, les massacres plus généralisés, alors notamment au bureau communal parce que c'est un des lieux importants du procès, mais aussi ailleurs dans la commune, se déclenchent.
Nous allons demander à M. l'huissier de faire entrer le témoin Gigi, mais avant cela, je voudrais qu'on mette le rideau, puisque le témoin est protégé.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ces événements? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Nos voisins sont venus, ils ont détruit notre maison et ils ont commencé à manger notre bétail.
Ces personnes qui ont détruit vos maisons et qui ont mangé votre bétail, est-ce que vous savez si c'était des Hutus ou alors des Tutsis?
C'était des Hutus.
Qu'est-ce qui s'est passé après cela?
Après avoir détruit notre maison et mangé nos bétails, ils ont commencé à nous tuer.
À ce moment-là, est-ce que vous avez été témoin oculaire de tuerie?
Oui.
Ornella Rovetta, le témoignage de cette femme, qui elle aussi est une habitante de la commune de Taba, administrée par Jean-Paul Akayesu, va avoir un impact déterminant sur le procès. Pour quelles raisons ?
Alors c'est un témoin extrêmement important, d'abord parce qu'elle a livré un témoignage très très fort, ensuite parce que c'est un moment du procès dans lequel il reçoit beaucoup plus d'attention aussi, de manière générale, internationale, donc dans la presse, de différents médias. Et puis ensuite, c'est extrêmement important parce que son témoignage fait suite à la modification durant le procès, donc à l'amendement de l'acte d'accusation. Cet acte d'accusation qui au départ ne reprenait pas le crime de viol. Donc il y a tout un contexte particulier avec des ONG qui sont très actives, mais aussi des nouveaux éléments qui émergent dans l'enquête et à travers des témoignages durant le procès, qui font que le procureur décide d'amender cet acte d'accusation, et c'est ce qui va permettre à cette femme de venir témoigner.
Quand vous dites que vous êtes allée à la commune, est-ce que c'est un bureau ?
Communal de Taba, notre commune.
Qui dirigeait ce bureau ? Si vous le savez.
C'était notre bourgmestre du nom de Akayesu Jean-Paul.
Qu'avez-vous vu lorsque vous êtes arrivé au bureau communal ?
Lorsque je suis arrivé à la commune, j'ai trouvé les réfugiés dont on m'avait parlé en bas de la route et sur le terrain devant la commune.
Ces réfugiés étaient-ils des hommes, des femmes ou des enfants ?
La plupart d'eux étaient des femmes et des enfants. Il y avait très peu d'hommes.
Vous avez dit que dans l'après-midi de ce premier jour, les Interahamwe sont venus et ont battu des gens. Pouvez-vous dire ce qui s'est passé exactement ?
Nous avons subitement vu un groupe de gens qui étaient armés de gourdins et de haches. Et ils se sont rués sur nous et ils se sont mis à nous battre.
Que s'est-il passé ensuite ?
Ils nous ont violés, mais ce viol était surtout nous humilier.
Témoin Gégé, après cela, où êtes-vous allé?
Après cela, nous sommes restés là, on n'a pas voulu retourner chez nous parce qu'on croyait qu'ils allaient nous tuer.
Est-ce la seule fois où ceci s'est produit?
Nous sommes restés là, près de la commune, et les Interahamwe revenaient tout le temps nous visiter.
Vous avez dit qu'ils vous ont amené dans une salle, il s'agissait d'un centre culturel, est-ce que c'est exact?
Oui, c'est un centre culturel, à l'intérieur, dans le même enceinte du bureau communal.
Pour se rendre à ce centre culturel, le bâtiment numéro 5, est-ce qu'il fallait entrer dans l'enceinte du bureau communal?
Oui, on devrait entrer dans l'enceinte du bureau communal.
Est-ce que vous avez vu l'accusé Jean-Paul Akayesu en traversant la cour pour vous rendre au bâtiment 5, le centre culturel?
Oui, nous sommes passés
près d'Akayesu.
Où est-ce qu'il se trouvait? Dans un bâtiment ou alors tout simplement dans la cour?
Oui, il était dans la cour devant le bureau.
Est-ce que, à votre connaissance, il vous a vu pendant que ces hommes vous entraînaient vers le bâtiment numéro 5 qui représente le centre culturel?
Oui, ils nous regardaient parce que nous étions nombreux. Mais ils voyaient que c'était les Interahamwe qui nous amenaient là-bas.
Avec le témoignage du témoin Gigi, le procès bascule, Ornella Revetta. Comment le lien est-il fait entre le crime et l'accusé?
Donc on entend très bien dans l'extrait, bien sûr d'abord elle raconte comment les relations avec les voisins, etc. se sont détériorées petit à petit. Et puis elle raconte son arrivée au bureau communal, et donc c'est là le lien, c'est le bureau communal comme lieu central de l'autorité du bourgmestre, bien sûr, qui apparaît, qui va d'ailleurs être aussi décrit par d'autres témoins. Et dans cet extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, le procureur qui pose des questions fait référence au bâtiment 5, parce que à ce moment du procès est présenté un plan du bureau communal sur lequel donc se trouvent différents bâtiments numérotés, sur lesquels on demande aux témoins de se positionner, d'expliquer où elles se trouvaient. Donc voilà, il y a toute cette scène aussi du procès derrière l'enregistrement.
Et rappelons, si vous le voulez bien, que la commune de Taba, c'est 60 000 habitants, située dans la préfecture de Gitarama. Et c'est quand même la troisième préfecture la plus touchée par le génocide.
Alors c'est la troisième préfecture la plus touchée après le génocide, après Boutaré et Kigali rurale, en termes de victimes. Et c'est une question intéressante aussi parce que le procès, en général, va retenir qu'il y a eu au moins 2000 victimes dans la commune. Or, si on regarde d'autres recensements, eh bien, on a des estimations à plus de 6000 ou 9000 victimes.
Jean-Paul Akayesu est le premier accusé condamné par le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Je m'appelle Jean-Paul Akayesu. J'ai 45 ans. Je ne sais pas si vous voulez que j'ajoute à autre chose, parce que vous avez comme profession, avant votre détention. Avant ma détention, je n'étais qu'un réfugié, chômeur. Mais
et avant d'être réfugié,
j'étais bourgmestre de la commune d'Ottawa, monsieur le président.
Voilà. Votre situation de famille, marié, première fois.
Je suis marié depuis 1978 et je suis père de 5 enfants.
Voilà. Donc vous avez demandé avec votre conseil à comparaître comme témoin pour votre propre défense. Comme témoin, nous allons devoir prendre votre déclaration solennelle. Vous entendez vous exprimer en français, en anglais ou bien dans une autre langue.
Je compte le faire en français, monsieur le président.
Voilà, donc vous allez vous lever. Vous levez, vous levez la main droite. Vous allez répéter à ma suite, je déclare solennellement que je dirai la vérité.
Que je dirai la vérité.
Toute la vérité.
Toute la vérité.
Et rien que la vérité.
Et rien que la vérité.
Vous avez parlé hier également d'une liste de noms. Selon les témoins, cette liste comportait le nom de Ephrem Karangwa, Rufondo Kuvuba, Simbabwa et Ingambe. C'était là les noms qui figuraient sur la liste.
Voulez-vous reproduire petit à petit les noms? Je vous dirai qui était sur la liste. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais vous dire ceci. Je n'ai pas lu, personne n'a lu les noms sur la liste. Et un seul nom a été cité. Le nom de Karangwa Ephrem.
Avez-vous lu à haute voix ou avez-vous résumé la liste qui vous a été donnée devant cette foule?
Je n'ai pas lu, parce que la population m'exigeait de lire. Je n'ai pas lu.
Avez-vous résumé cette liste?
J'ai employé un langage que je peux vous expliquer ici. Il m'exigeait de lire. Et personnellement, parce que j'avais la liste, je l'ai lue, sans sortir la voix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, pourquoi est-ce qu'il ne lit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne lit pas? Et j'avais compris le problème. Je leur ai dit, j'ai une liste des noms ici, comme Karangwa Ephrem. Comme il y a sur cette liste Karangwa Ephrem, demain, vous vous retrouverez vous-même sur une telle liste. Est-ce qu'on dira que vous êtes maintenant, que vous abritez, que vous êtes un élément du FPR, un militaire du FPR? Si vous appelez ça résumé, ça va.
Nous nous contenterons de cela. Vous avez donc fait mention du nom d'Ephrem Karangwa. Et c'est ce que le témoin de l'accusation a affirmé.
Dernier témoin convoqué à la barre de son propre procès, Jean-Paul Akayesu, est un accusé qui parle en français, Ornella Reveta, et qui parle beaucoup.
Et donc il parle en français depuis le tout début de la procédure, donc lorsqu'il a été arrêté en Zambie vers le mois d'avril 96, là déjà il va s'exprimer en français pendant 2 jours, il va être interrogé par les enquêteurs, et puis au procès effectivement il intervient à de multiples reprises, il y a beaucoup d'échanges avec le président aussi, Laïti Kama.
Est-ce qu'il se contredit?
Alors il se contredit, et c'est particulièrement le cas dans le contre-interrogatoire, dont on entend d'ailleurs un extrait ici. Donc Akayesu va se présenter à la barre comme témoin à la fin de son procès pendant 2 journées. Une première journée où il est interrogé par ses avocats, puis une deuxième journée dans laquelle il est interrogé par le procureur, par les juges aussi. Il y a un certain nombre d'échanges extrêmement importants à ce moment-là. Et il va y avoir un certain nombre de problèmes, de contradictions par rapport justement aux déclarations qu'il avait faites en amont du procès aux enquêteurs. Et donc dans cet extrait, on revient sur cette fameuse réunion, sur ce qui s'y est dit. Donc les juges ont entendu un certain nombre de témoins qui sont venus présenter les faits. Et donc on revient à la charge, entre guillemets, sur Akayesu en lui disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous n'avez pas lu ?» Parce que la question est là, évidemment. Et donc on voit qu'au départ, et c'est un des éléments de sa ligne de défense aussi, c'est de dire « Je n'étais pas là, je n'ai pas lu, etc. etc. » Et puis cela s'effrite. Il finit par dire qu'il a lu sans vraiment lire.
Et Jean-Paul Akayesu a plaidé non coupable.
Nous avons connu des moments difficiles et vous le savez bien que ces massacres, ils ont commencé dans notre commune tardivement. Et ils n'ont pas commencé tardivement parce qu'on avait croisé les bras ou parce qu'on était loin de Kigali. Parce que je vous dis que depuis Kigali jusqu'à Taba, il y a 25 km. Donc ça n'a pas commencé à Taba parce que nous étions loin de Kigali. C'est parce que nous avons fait vraiment des efforts. Il y a eu des massacres. Le monde entier est venu à Taba. Je vous ai parlé des gens de Donyamouté, là, en préfet de Ruengeli, de Kibouye, et bien sûr d'autres que je ne connaissais pas. Pour tuer des gens, donc comme ça, dans leur tête, il fallait tuer des personnes qu'on appelait des Tutsis. Pourquoi? Pour rien. Je n'ai jamais épousé cette idéologie. Dès que j'ai trempé dans des massacres, pour moi, je vous dis que pour moi, je n'ai pas plaidé non coupable ici parce que je devais plaider non coupable. J'ai plaidé non coupable parce que j'étais non coupable et je me sentais non coupable.
Jean-Paul Akayesu n'a pas craqué, même devant ses victimes qui l'ont reconnu. Il plaide non coupable. Alors, de votre point de vue d'historienne qui avait fait cette thèse sur justement les archives du TPIR et le cas Jean-Paul Akayesu, la première affaire du TPIR, votre sentiment, Ornella Reveta, c'est qu'il est dans le déni total ou bien il s'en remet au fait qu'il était finalement un simple exécutant?
Alors, c'est une question compliquée et bon, pour préciser, j'ai écouté des archives, bien sûr, du TPIR, mais en particulier celle de ce procès-ci et puis d'autres procès de Bourmès devant le TPIR aussi pour voir comment cette question locale était abordée.
Oui, parce qu'il
n'est
pas le seul bourgmestre à être jugé.
Il n'est pas le seul, donc ils sont 12.
Ils sont 12, hein.
Au total, échelonnés sur plusieurs années, hein, sans véritable coordination entre les procès, mais voilà, ce sont des procès individuels pour la plupart. Sur la question de simple exécutant, donc là, on revient à la question des différents maillons de pouvoir qu'on a évoqué plus tôt. Donc on serait peut-être plutôt, oui, effectivement, pour répondre à votre question, dans le maillon, dans cet ensemble d'interconnexions entre différents niveaux de pouvoir qui font que les conditions ont été réunies pour que les massacres débutent.
Et le verdict du procès de Jean-Paul Akayesu est prononcé le 2 septembre 1998 par le président Laïti Kama.
Sur la base des éléments de preuve soumis à la Chambre, il apparaît donc clairement que les massacres survenus au Rwanda en 1994 visaient un objectif particulier, celui d'exterminer les Tutsis, choisis spécialement en raison de leur appartenance au groupe Tutsi, et non parce qu'ils étaient des combattants du FPR. En tout état de cause, les enfants, les femmes enceintes Tutsis, ne saurait par nature relever de la catégorie de combattant. La Chambre en a conclu que parallèlement au conflit entre les FAR et les FPR, un génocide a été commis au Rwanda en 1994 contre le groupe Tutsi. En conclusion de tout ce qui précède, je demanderai à l'accusé de se tenir debout maintenant. La Chambre de première instance rend le verdict suivant. Chef d'accusation numéro 1. Accusé Akayesu, vous êtes déclaré coupable de génocide. Chef d'accusation numéro 2. Accusé Akayesu, vous êtes déclaré non coupable de complicité dans le génocide. Chef d'accusation numéro 3. Vous êtes déclaré coupable de crime contre l'humanité, extermination. Chef d'accusation 4. Accusé Akayesu, vous êtes déclaré coupable d'incitation directe et publique à commettre des génocides. Chef d'accusation 5. Vous êtes déclaré coupable de crime contre l'humanité, assassinat.
C'est le premier grand moment judiciaire, pour citer Henri Rousseau, le premier procès du TPIR qui débouche sur le premier jugement rendu par cette juridiction. Quelle conclusion en tirez-vous, Ornella Revetta ?
Alors c'est un premier moment extrêmement important. Le tribunal, lorsqu'il termine ce procès, n'est plus le même qu'au début. C'est-à-dire que c'est un tribunal en construction lorsque le procès débute. Hein, on a vu, on est quand même déjà 2 ans après le génocide et tout le monde attend que ces procès débutent. Voilà, il aboutit. C'est un moment important et 2 jours après, il y aura le jugement contre l'ex-premier ministre Jean Kambanda. Autre moment extrêmement important aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un jugement qui fait quand même 300 pages dans sa version française et qui va véritablement produire un récit judiciaire et juridique sur ce qui s'est passé. Et l'enjeu du procès, c'est la qualification de génocide, et c'est dire qu'il y a effectivement un génocide qui a été commis contre une population qui, au sens de la Convention sur le génocide, est protégée, c'est-à-dire les Tutsis. Donc ces choses sont dites dans le cadre de ce procès, c'est le premier procès international.
Et c'est donc la première fois que ces crimes de masse en direction des Tutsis du Rwanda sont qualifiés de génocide.
Sont qualifiés de génocide par un tribunal international.
Merci. Ornella Revetta, on vous retrouve ce dimanche dans le colloque du Mémorial de la Shoah sur la question de l'inventaire des sources du génocide des Tutsis au Rwanda. Un grand merci.
Merci à vous.
L'affaire Akayesu, c'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompeani avec les archives sonores du TPIR. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission. Exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.